stressant avec mon responsable au travail. C'était une première fois pour moi, depuis mon arrivée en France, d'avoir une conversation, un échange pour partager ma foi au travail dans cette manière. Je ne me souviens plus comment nous sommes arrivés là, mais nous étions en train de dîner après une longue journée de bureau, des réunions, etc. Et je me souviens que Kazim, mon patron, a dit quelque chose. Puis il y a eu un long silence pendant que je me demandais moi-même si je devais partager ma foi avec lui. Je ne savais pas grand-chose de sa vie personnelle, car à ce moment-là, il n'était pas dans l'entreprise que de 2 mois. Et parce que je travaille à distance, c'était la deuxième fois, j'ai pris assez de temps avec lui. Aussi, je me suis souvenu des nombreuses fois où j'avais prêché sur le fait de partager sa foi, notre foi, avec les autres lorsque l'occasion se présentait. J'ai pas le choix. Je me suis donc tourné vers lui et lui ai demandé: voulez-vous savoir que ce en quoi je crois? Il m'a regardé avec un peu de surprise et m'a répondu: oui, s'il vous plaît, dis-moi. Je lui ai d'abord dit que j'étais pasteur. Il me regarde d'un air un peu étrange au début et m'a dit: vous devez m'expliquer. Je lui ai alors dit que j'étais ancien dans l'église, que j'ai prêché, que j'ai prié pour les autres, que je m'occupe de troupeaux et que j'avais été appelé à cette tâche. J'ai ajouté que c'est après mon travail, c'est pas pendant le travail. Et il a commencé à poser beaucoup de questions sur les dons, les signes, les miracles et les prodiges. Kazim vient du Pakistan et est musulman. Cependant, il est très intéressant de noter qu'il a fréquenté une école catholique pendant son enfance. Il est musulman, mais non pratiquant. Nous avons dû parler pendant plus d'une heure des différents sujets. Et j'ai pu constater qu'il avait une certaine compréhension du christianisme, mais s'il était un peu confus, ce qui est compréhensible vu son éducation catholique. Ça, c'est une blague, non? Ça marche pas? Non. Sérieusement, j'ai été surpris par ces questions. Il m'a toutefois pris à tout pourvu lorsqu'il m'a interrogé sur la fin des temps et sur ce qui se passait le jour du jugement dernier. Nous avons ensuite eu une longue discussion sur la venue de Christ, le livre d'Apocalypse et le fait que lorsqu'il reviendra, le jugement arrivera. Nous n'aurons pas le temps de nous décider ou de corriger nos vies, nous devons être prêts. Il était particulièrement préoccupé par la rapidité du jugement et par le fait que nous n'aurons pas le temps de changer nos voies. Et nous en avons parlé pendant un certain temps sur ça. Ce fut une soirée très intéressante. Et je suis sûr que nous aurons d'autres comme celle-ci à l'avenir. En réfléchissant à cette conversation, Dieu a remis en question mes réponses. Et je me suis demandé si j'avais mal présenté les choses ou mal interprété certains passages de la Bible. Et aujourd'hui, je vais partager un peu de mes réflexions sur ça. Je ne pense pas d'avoir toutes les réponses et toutes les questions. Mais je sais une chose. Dieu nous demande comment on vit. Nous vivons aujourd'hui. Comment nous vivons aujourd'hui? Et ça, c'est le but. Ça, c'est la raison. Et j'ai réalisé que Dieu me corrigeait, qu'il voulait que je vous encourage également aujourd'hui. Le jugement, oui, c'est final. Mais Dieu veut quelque chose pour nous tous, et c'est maintenant. Alors, prenons nos Bibles et ouvrons-les à Luc 12, 35 à 40. Ce n'est pas une prédication sur la fin de temps, ce n'est pas quelque chose de lourd aujourd'hui. Mais c'est nécessaire de comprendre des choses aussi. Soyez prêts à agir avec les ceintures serrées autour de la taille et de vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le maître au moment où il va revenir d'un mariage afin de lui ouvrir la porte dès qu'il y arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs qui le maître à son arrivée trouvera éveillé. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture, les fera prendre place à table et viendra les servir. S'il revient à minuit ou même plus tard encore et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, que le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu cette histoire et je serais surpris si elle ne vous faisait pas immédiatement penser à la seconde venue de Christ. À la fin de temps, au jour de jugement dernier, etc. Ici, le Christ veut nous rappeler que lorsqu'il reviendra, ce sera un moment où personne ne s'y attendra. Personne ne peut s'y préparer. J'ai partagé ce verset avec mon manager Kazim et lui ai expliqué que le moment de nous préparer, c'est maintenant, à l'instant présent, pas demain, ni deux semaines avant le retour supposé du Christ, mais maintenant et chaque jour de notre vie. Les deux derniers versets de cette section dans la Bible, versets 47 et 48, se lisent comme suit. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais ne se tient pas prêt à le faire, recevra de nombreux coups. Par contre, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et agit de telle façon qu'il mérite d'être battu, recevra peu de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous effrayer et vous inquiéter pour votre avenir. Mais je veux que vous entendiez le cœur de Dieu. Si nous ne connaissons la volonté de Dieu et que nous ne faisons rien pour le mettre en œuvre, nous serons jugés sévèrement. Ceux qui ne connaissent pas le Christ seront jugés, mais selon le même critère, ni de la même manière, car comment pourriez-vous savoir mieux? Ça dit ça. Puisque vous êtes ici, je peux supposer sans risque que vous avez entendu parler de Dieu. J'ai quelquefois déjà ce matin, mais vous avez tous entendu le nom de Dieu, de Christ, et que vous connaissez sa volonté pour vous. Je dois admettre que nous avons parfois besoin d'être poussés à agir et à nous concentrer à nouveau sur les bonnes choses, et je veux vous encourager aujourd'hui, sans vous effrayer, car Dieu est un Dieu d'amour et il a plus de patience que vous et moi ne pourrions jamais en avoir. Ça, c'est sûr. Romains 2, verset 4 dit: on bien méprise tout la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité. Ne sais-tu que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement. Pour ceux qui ont manqué, je vous encourage à écouter les derniers deux messages sur le site web. Le premier, c'est de Luc, sur le sujet de langage que nous utilisons. Et la seconde, celui de Farid, qui a parlé de l'importance de communauté. Et les deux sont importants. C'est le changement qu'on a besoin dans nos vies. Des fois, c'est les petits changements, des fois les grands changements. Mais on a besoin de faire le changement. Parce que Dieu nous appelle de le changer, de changer nos vies, de changer nos attitudes. Dieu est notre plus grand soutien. J'aime beaucoup l'image que Dieu m'a donnée un jour dans le passé, où je participais à un course-pied et au jour où je courais dans la dernière ligne droite vers la ligne d'arrivée, et la seule voix que j'entendais était celle de Dieu qui m'encourageait. Il criait pour moi: allez Andrew, allez! Ah, c'est pas ça. Go Andrew, go! Parce que je parlais anglais. Tu peux le faire, continue mon garçon. Ça, c'est Dieu pour nous. Tu peux le faire. Continue. Tu peux y arriver. Et je crois que c'est ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Il est notre soutien, notre plus grand soutien. Et il se réjouit chaque fois que nous réussissons quelque chose. Je ne vois pas un Dieu qui reste assis au ciel à observer ce que nous faisons et attendre le second venu. Je vois Dieu comme un Dieu actif qui nous suit attentivement, nous observe et nous soutient. Oui, bravo Andrew, c'est exactement ça. Tu as compris finalement. Super. Et très certainement, de temps en temps, c'est plutôt: non, Andrew, tu sais mieux que ça. Come on, allez, lève-toi. On y va. Tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est donc sous cette forme que je présente l'encouragement ce matin. Une partie du chemin que nous parcourons consiste également à voler de nos propres ailes et à faire ses parts sans que les anciens, les responsables de groupe de vie, les diacres ou qui que soit d'autre ne le fasse à votre place ou avec vous. Il y a des fois, nous sommes seuls. Ce que nous sommes capables de faire et ce que nous essayons de faire à partir d'ici ou de toute autre méthode d'enseignement, c'est de vous fournir les outils nécessaires pour prendre les bonnes décisions, pour voir la vérité de Dieu dans les choses et pour vivre votre vocation. Hein, un bon mot. C'est un peu de pub. Tel que Dieu vous a appelé. Philippiens 2, 12 et 13 nous le rappelle. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Paul nous rappelle qu'il est plus facile de préserver dans notre foi lorsque nous sommes accompagnés et que nous pensons que quelqu'un nous observe. Pas seulement en ma présence, il demande. Cela nous donne le sentiment qu'il est plus facile de bien agir lorsque nos dirigeants nous observent. Nous avons tendance à mieux nous comporter, mais Paul nous exhorte également à persévérer, même lorsque nous ne sommes pas observés, car c'est encore plus difficile. Nous n'avons pas le contrôle, les regards sur nos épaules, les enseignements et les rappels directement devant nous. Il nous appelle à être plus exigeants avec nos actes. Lorsque vous courez une course et que vous arrivez dans la dernière ligne droite avant la ligne d'arrivée et que tout le monde vous encourage, cela vous donne une regain d'énergie et d'enthousiasme pour le faire. Imaginez maintenant que vous essayez de faire cela toute seule dans une parc toute seule. C'est difficile. C'est beaucoup plus difficile d'avoir cette énergie pour finir. C'est les gens autour de nous qui aussi donnent l'envie de faire mieux. Mais quand nous sommes seuls, c'est plus difficile. Car c'est Dieu lui-même qui agit en nous. Nous pensons souvent à tort que cela signifie que Dieu fait le travail en nous et que nous devons rester assis et attendre que cela se produise. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Le mot utilisé dans la version grecque est « énégion ». Ce n'est pas la bonne prononciation, je sais. C'est de là que vient le mot énergétique. Et cela signifie être actif pour produire un effet. Dieu produit un certain effet en nous. Je n'agis pas à notre place. Il nous conduit à agir, à vouloir et à faire. Il nous ne contraint pas. et ne nous force pas à aller à l'encontre de notre volonté, son influence nous rende disposés à agir. Il ne s'agit pas d'une force physique, mais d'une influence morale. Votre volonté, votre pouvoir de décision est quelque chose qui est en vous, qui vous possède et contrôle, et qui ne peut être contraint par une force physique. Elle ne peut être pliée ou contrôlée, mais elle est basée sur ce que vous choisissez de croire. C'est toi qui contrôles toi-même. Pour produire à la fois le vouloir et le faire, le voisin anglais parle de sa bonne volonté. Le mot grec utilisé ici est eudokia, qui signifie joie, bonne volonté, faveur, qui signifie donc que Dieu exerce une telle influence qu'il conduit les gens à vouloir et à faire ce qui est conformé à sa volonté. Il ne nous conduit pas au péché, il nous conduit à vouloir faire sa volonté. Son influence est telle que nous voulons simplement à faire. Ou du moins, c'est ce qui devrait être. Et c'est pourquoi Paul a dit que nous devrions travailler à notre salut avec crainte et tremblement afin de faire sa volonté. Notre salut doit nous faire prendre conscience que nous avons besoin d'aide et que la seule aide que nous pouvons obtenir pour y parvenir est celle de Dieu. Il nous aide à vaincre le péché. Il nous conduit à la véritable repentance et au pardon. Il nous aide à nous éloigner du mal et des mauvaises influences, à renoncer au mal et au péché et à prendre la résolution de mener une vie différente. Seul Dieu peut faire cela. Je ne peux pas le faire, ni Farid, ni Pierre, ni les diacres, ni le pape. Seul Dieu le peut. L'influence que Dieu exerce sur notre esprit est là pour nous aider. Elle n'est pas là pour nous embarrasser ou nous gêner. Elle ne va pas nous arrêter. Rappelez-vous, Dieu est celui qui, depuis le bord de la piste, nous encourage dans la course de la vie. Son influence nous aide à accomplir notre salut, nous permettant de vaincre nos ennemis spirituels et nos péchés. Dieu est cet encouragement pour nous. Il ne regarde pas seulement le grain qui a été semé, mais il regarde la récolte dans le futur. Il regarde la récolte complète et il a vu et il voit les fruits qui sont produits. Il ne voit pas seulement cette petite graine dans le sol et le travail nécessaire d'arriver à la récolte. Il voit la récolte. C'est une grande différence. Si tu regardes le petit grain, Tu vois seulement le petit grain. Je vois l'abondance de le futur pour chacun de nous. C'est pourquoi il nous encourage, car il ne regarde pas ce qui nous manque comme nous le faisons, mais il regarde cette abondance où ce que nous avons et ce que nous aurons. Comment courez-vous la course? Je vois, on n'a pas assez de temps. Je vais critiquer un peu de changer. On a allié avec Luc 12. C'est la même histoire en Matthieu 25, versets 14 et 30. Et quand vous êtes à la maison, prenez le temps de le lire. C'est l'histoire de la parabole de sac de l'or. Et le maître donne un sac ou deux sacs à ses différents serviteurs. Et à son retour, il regarde ce qu'ils ont fait. Dieu veut dire à chacun d'entre nous, là où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous avez fait ou ce que vous avez accompli, indépendamment de votre opinion et de vos convictions, Dieu veut dire à chacun d'entre vous ici, bravo, mon bon et fidèle serviteur. Bravo. Bravo. Dieu voit en nous ce que nous ne voyons pas. Et il veut nous encourager. Il connaît les difficultés de ce monde et les difficultés et les défis auxquels vous êtes confrontés mieux que chacun d'entre nous ne pourrait jamais le faire. Il vous murmure à l'oreille, allez, tu peux le faire. Ce n'est pas un moment d'attendre, de prendre notre temps, mais d'être actif dans notre foi, en sachant ce que le Seigneur appelle chacun d'entre nous à faire, en connaissant son désir pour chacun de nous. Allez, tu peux le faire. Essayons encore. Tu peux le faire. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Allez. Ainsi, sans savoir où l'avenir nous mènera, quand il reviendra et quand aura lieu le jour du jugement, nous pouvons être confiants en sachant que nous avons à nos côtés le plus grand soutien possible. Efforçons-nous d'être attentifs à son influence dans nos vies et éloignons-nous de ce qui est mauvais. On nous éloigne de lui. Quoi qu'il y arrive, restons attachés à lui avec foi. Continuons cette course qu'il a commencée avec nous, afin que lorsque nous attendions la ligne d'arrivée, nous entendons clairement sa voix dans nos oreilles nous dire « Bien fait, mes bons et fidèles serviteurs, mes frères. » Levons-nous et prions. Père, debout devant toi aujourd'hui, nous prenons conscience de nos doutes et de notre capacité à voir ce que tu vois en nous. Père, nous te remercions d'être notre plus grand soutien. Merci d'être en nous, de nous pousser à aller de l'avant et de nous appeler à être plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Père, nous prions que pour que ta main soit sur nos vies. Nous prions que ta vérité nous soit révélée chaque jour. Nous te demandons de protéger nos cœurs et nos esprits de tout ce qui pourrait nous éloigner de toi. Et surtout des fausses croyances que nous pourrions avoir à ton sujet. Père, puissions-nous vivre dans la vérité que tu nous réveilles afin d'être libérés de tout ce qui nous lie et nous empêche d'accomplir ta volonté et ta joie. Que cela soit ce qui nous aime et nous appelle chaque jour. Puissons-nous être fidèles dans les petites choses que tu nous donnes. Puissons-nous nous appuyer sur tes enseignements et tes directives afin que, tandis que nous courons cette course, nous puissions entendre ta voix résonner dans nos voix, dans nos oreilles. Bravo, mon bon et fidèle serviteur. Nous te demandons ces choses en ton nom glorieux. Amen.